Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
On devient de moins en moins capable de se coltiner ou de se confronter à ce qui n'est pas nous, quoi.
Bonjour à vous, c'est Pascal Clot. Tout de suite, allons vers le très humain en compagnie de l'écrivain Alain Damasio. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Si le transhumanisme croit qu'il manque à l'homme quelque chose que seule la techno pourra lui apporter, j'ai la tranquille et furieuse conviction que l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie pleine, intense et féconde. Tout est déjà en nous, nous ne manquons que d'une chose, apprendre à aller au bout de ce qu'on peut, par nos propres facultés d'agir, de chercher, de sentir et de créer. Nous n'avons pas besoin de devenir plus qu'humain, nous avons juste besoin de devenir plus humain. Vous en appelez au transhumain, j'en appelle au très humain, ce qu'un Nietzsche bien compris appelait lui le surhumain. C'est ce qu'écrit notre invité Alain Damasio, a passé un mois dans la Silicon Valley. Comment et à quoi ça l'a fait penser? Quelles sont les intuitions et les réflexions qui en ont découlé? Il vient nous le détailler, nos téléphones en mode avion. Il ne nous reste plus qu'à décoller à ses côtés vers cette vallée du silicium, Silicon Valley. Et je ne suis pas sûr qu'il ait de bon ton d'ajouter un oyer.
Dans quel monde on vit ?
Baie de San Francisco aux États-Unis, on la surnomme la capitale mondiale de la tech, la Silicon Valley. C'est là que se déploient Apple, Google, Facebook et les autres, la Silicon Valley ou Vallée du Silicium pour reprendre le titre de votre nouvel essai. Alain Damasio, vous y avez passé un mois en avril 2022, vous êtes né en 1969, vous êtes écrivain, auteur de science-fiction, la horde du contrevent, les furtifs, la zone du dehors, ce sont les titres de vos textes les plus célèbres. Qu'est-ce qui vous indique que vous êtes vivant, Alain Damasio ?
Ça, c'est, j'aime bien. C'est des sensations corporelles, intimes et puissantes qui me font croire que je suis situé dans un espace et dans un temps donné et que je ne suis pas qu'un esprit immatériel circulant dans le réseau. Donc, j'ai encore la conviction de vivre.
Vous n'avez pas besoin d'un équipement technologique pour vous le démontrer que vous êtes vivant. Vous savez, une montre, par exemple, qui calculerait la fréquence de vos battements de cœur.
Ouais, j'ai pas les Apple Watch ou les bracelets connectés que j'ai vus à la Silicon Valley qui sont incroyables parce que, effectivement, les gens ont un monitoring sur leur corps qui est permanent, sur la tension, la fièvre, le pouls, mais même des données de glycémie. Et c'est comme si, effectivement, ils se rassuraient sur le fait qu'ils sont bien là et que leur corps est bien là. Et surtout que ce corps fonctionne bien. Moi, je crois au premier corps, le corps immédiat, vivant, vibrant, qui est fatigué, qui a froid, qui a chaud et qui se sent de lui-même. J'appelle ça une sorte de perception viscérébrale. C'est-à-dire que c'est comme si les viscères et le cerveau étaient couplés ou fusionnés ensemble. Et j'essaye très modestement de rester là-dedans.
Et comment faites-vous, vous, au quotidien, pour devenir plus humain ?
J'essaye de travailler sur les liens. Je crois que c'est la quête la plus profonde et la plus constante que j'essaye de mettre en place, là, surtout ces dernières années. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que le technocapitalisme était une attaque générale sur les liens.
Alain Damasio, technocapitalisme, ouais. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le capitalisme couplé avec les puissances du numérique, le capitalisme couplé avec les technologies quotidiennes qui sont le smartphone, qui sont les réseaux, qui sont évidemment le web, quoi. C'est ce technocapitalisme-là qui est très cognitif, hein, c'est-à-dire qu'il opère surtout sur les facultés cognitives, c'est pas tellement sur le reste, même s'il y a un technocapitaliste des voitures autonomes et d'autres choses, mais je parle vraiment des technologies les plus évidentes, les plus légères et les plus quotidiennes qu'on a, quoi, au sommet desquelles il y a le smartphone. Donc par rapport à ça, moi j'ai l'impression que cette attaque sur les liens, elle porte à la fois sur les liens qu'on a au monde, à la nature, au vivant, les liens qu'on a aux autres et les liens qu'on entretient avec soi-même. C'est ce triple lien là, je trouve qu'il est attaqué par le néolibéralisme, il est attaqué par le technocapitalisme. Les liens sont absentés, sont distancés, sont dévitalisés et ils sont reconstitués par les réseaux sociaux, mais en enlevant une grande partie de la dimension corporelle, de la physicalité de ça. Et moi, j'essaie de travailler là-dessus. J'ai même créé avec un collectif une zone d'expérimentation en montagne, là, en France, dans les Alpes d'Haute-Provence. On appelle ça l'école des vivants, on appelle ça la ZEST aussi, zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée, où on essaye de marier art, écologie et politique. Et le gros de ce qu'on fait là-haut, j'ai envie de dire, dans cette zone, c'est de retisser du lien. Retisser du lien avec le monde végétal, avec le monde animal, avec les biotopes et surtout avec les gens. Et quand on arrive à faire ça, on a l'impression qu'on arrive à battre le capitalisme sur le terrain du désir, parce que c'est sur le terrain du désir que,
on va en reparler.
Que je pense qu'on le dépassera. Ouais.
Ouais. Entretien avec du lien, entretien humain donc avec vous ce matin, Alain Damasio. Et j'ajoute à la conversation une voix humaine que j'adore, c'est celle de Pascal Clark. Salut Pascal.
Salut Pascal Claude.
Vous vous sentez vivante vous ?
Ça dépend des moments et des jours, mais plutôt dans l'ensemble quand même, ouais.
Vous êtes journaliste, écrivaine, autrice de lettres aussi. À qui écrivez-vous cette fois-ci ?
Alors j'écris à quelqu'un de très 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 cher.
On n'en saura pas plus pour le moment ?
Non, vous verrez.
D'accord, en toutes lettres, c'est avec vous dans une petite demi-heure. Et là, c'est le selfie sonore d'Alain Damasio que nous écoutons. Un son en guise d'autoportrait. Vous vouliez écouter le chant d'un rossignol. Pourquoi ? Quel lien entre le rossignol et Alain Damasio ?
Ben, je crois qu'on est, en tant qu'écrivain, on est producteur de ces chants, on est producteur d'une créativité, parce que c'est la créativité de l'oiseau aussi qui s'exprime à travers le chant du rossignol. C'est des chants à la fois d'alerte, mais aussi d'appel, des chants d'édification, des chants qui vont être émis au milieu d'autres oiseaux, surtout au printemps où il y a vraiment une espèce de compétition, ou en tout cas de polyphonie de chants d'oiseaux un peu partout dans la campagne. Et au milieu de ces chants-là, ben voilà, moi j'ai ma modeste voix aussi qui essaie de siffler quelque chose sur les enjeux du lien, sur les enjeux de la vitalité. Et j'ai l'impression d'être au milieu de ce printemps, en tout cas j'espère être au milieu de ce printemps, et d'essayer d'annoncer de nouvelles nidifications, et en tout cas de trouver une place et une variation dans cette polyphonie. Hein.
Allez, nous filons tout de suite dans la Silicon Valley avec vous, Alain Damasio.
C'est dans la Silicon Valley que se créent les entreprises les plus riches et les plus influentes de l'histoire.
Quand je suis arrivé dans la Silicon Valley et que j'ai vu tous ces gens en jeans, t-shirts et sandales qui travaillaient dur, mais qui s'éclataient, je me suis dit, j'ai enfin trouvé le lieu de travail idéal.
Aujourd'hui, il y a disons 4 ou 5 entreprises qui font la pluie et le beau temps. Apple, Google, Amazon, Microsoft et Facebook. Et cet ordre est à peu près celui des 5 plus fortes cotations en bourse des États-Unis. Donc ça montre bien qu'on a trouvé la recette.
Vallée du silicium, c'est donc le titre de votre nouvel essai, Alain Damasio. Texte écrit à l'aide d'un ordinateur de chez Apple. C'est dire notre dépendance. Que ferions-nous sans la Silicon Valley, Alain Damasio ?
En tout cas, on continuerait à vivre et on vivrait peut-être très bien, mais on n'aurait absolument pas le même monde, puisque c'est eux qui construisent nos quotidiens, tout simplement. Quoi. C'est fascinant d'ailleurs d'avoir une industrie qui a réussi à avoir une emprise aussi continue, aussi perpétuelle sur nos existences, puisque du matin au soir, la plupart des gens ont le smartphone dans la poche ou sur la table de nuit, se couchent avec le smartphone, se réveillent avec, etc. Ce qui fait qu'on a une continuité du lien technologique qui n'existait pas avant. Le fait que la portabilité de cet ordiphone, parce que c'est un ordiphone, en réalité, si vous l'exprimez sur un terme plus neutre, ça n'a jamais existé avant. Et en plus, l'ampleur d'une société comme Meta, donc ex-Facebook, avec juste WhatsApp, Facebook et Instagram, par exemple, si je prends trois applis, on est de l'ordre de 4 milliards de personnes qui sont consommateurs, utilisateurs mensuels de ces technos. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire.
Mais donc nous sommes piégés ?
Oui, en tout cas, on exerce notre liberté dans un monde qui a été défini par les Silicon Valley. Moi, je suis assez sartrien là-dessus. C'est-à-dire que je pense que la liberté, elle reste toujours intacte, mais elle s'exerce en situation. Et la situation qui est la nôtre, c'est un monde, un technococon, comme j'appelle ça. C'est un monde où la technologie est autour de nous en permanence, et on doit exercer notre liberté à l'intérieur de ce monde. Moi, par exemple, j'ai pas de smartphone, j'ai refusé de rentrer dans la joignabilité constante, mais je vis dans un monde où tout le monde a un smartphone, donc je suis bien obligé de tenir compte et d'exercer ma liberté par rapport à des gens qui sont tous connectés et qui ont tous la capacité de se joindre à chaque instant. Donc ça m'empêche pas d'être libre, mais ma liberté, elle est inscrite dans un monde que j'ai pas choisi.
Tout ça continue et continuera avec, écrivez-vous, ma complicité sidérée, Alain Damasio.
Oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que moi-même, quand j'écris toutes ces chroniques, je suis sur un MacBook. J'ai utilisé Apple depuis l'origine, puisque j'ai appris sur un Mac SE à double lecteur de disquette à utiliser des traitements de texte. À l'époque, quand on tapait du gras, ça soulignait le mot, mais ça mettait même pas en gras immédiatement le texte. Donc j'ai vécu, j'ai une archéologie
Et vous n'êtes pas né en 1832, hein.
Et non. Non, mais moi, je trouve qu'on est une génération qui est extrêmement intéressante, puisque moi, je suis né en 69, donc c'est à 25 ans, vraiment au mi-temps de ma vie, que j'ai vu apparaître, évidemment, Internet et aussi le téléphone portable. Et maintenant, je vais vivre la révolution de l'IA générative. Donc, les trois grosses révolutions du numérique, je les aurais vécues et subies, mais en connaissant l'ancien monde. Et je trouve que ça donne une espèce de... peut-être d'acuité que n'ont pas forcément les millennials qui sont nés à l'intérieur. Moi, je le vois par rapport à la société de consommation. Moi, je suis né dans la société de consommation, dans la publicité, dans la société du spectacle, et j'ai pas de recul. J'arrive pas à l'analyser, j'arrive pas à exercer un regard qui a le moindre intérêt là-dessus. C'est mon biotope, quoi. Je suis né à l'intérieur. Par contre, sur le numérique, j'ai connu l'avant, j'ai connu l'après. Donc oui, ouais, je pense que ça permet une critique, mais une critique pas au sens purement négatif, une critique comme la critique de la raison pure de Kant, c'est-à-dire une capacité d'analyse, de déconstruction, de regard, d'ironie, d'autodérision, et en même temps, une capacité à voir tout ce que ces technologies aussi nous ont apporté et continuent à nous apporter.
Ce qui vous a frappé, c'est la place de la voiture dans la Silicon Valley. La voiture y est vitale, écrivez-vous, Alain Damasio.
Oui, ce qui est dingue dans la société américaine, c'est qu'effectivement, on sait, on ne marche pas aux États-Unis. Si tu vois quelqu'un marcher, généralement, la police s'arrête et s'inquiète. Donc, ton premier véhicule, ton premier habit, l'habitacle, c'est aussi ton habit, quoi. Tu peux pas te déplacer sans véhicule. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'automobile a longtemps été le symbole de l'ère de l'énergie, quoi, l'ère des industries triomphantes. C'était même les premières capitalisations, justement, boursières à l'époque. C'était les pétrolières et les voitures. C'était General Motors. Moi, à l'époque où j'étais à l'école, c'était ça. Et aujourd'hui, la voiture est juste là pour produire de l'information, pour produire du data. Donc, elle a été en quelque sorte dissoute dans un trait de lumière et elle nous amène à l'ère de l'information. Donc, c'est un bon fil rouge, je trouve, pour montrer ce qui a changé, ce que l'époque a changé. Donc, on a toujours des Hummers monstrueux là-bas avec des roues gigantesques, complètement absurdes écologiquement.
Mais la voiture, dites-vous, elle est là pour capter des données avant tout aujourd'hui. Vous avez notamment rencontré, si je puis dire, la voiture autonome, la fameuse voiture sans chauffeur.
Ouais, c'était assez fascinant parce que immédiatement je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner quand tu auras une ville de nuit où ne circuleront plus que des voitures vides, des voitures autonomes vides, cherchant un client pour l'amener à un point donné. Et c'est ce qui se passe, ça y est, à San Francisco, depuis 2023, ça a été légalisé, on peut prendre des voitures autonomes. Et en fait, la première chose qui te frappe quand tu te balades à San Francisco, c'est que tu vois ces véhicules blancs avec des capteurs partout. Donc il y a des radars, il y a des lidars, il y a des caméras aux 8 coins de la voiture, j'ai envie de dire. Et en fait, tu comprends que des gens les conduisent, mais ils les conduisent uniquement pour que la voiture assimile le maximum de données de circulation et puisse ensuite se débarrasser du chauffeur qui est à l'intérieur et opérer toute seule. Donc c'est une double exploitation des chauffeurs puisqu'ils conduisent pour générer de la data et ils conduisent pour s'auto-éliminer finalement.
Mais cela dit, on pourrait se dire que la voiture autonome, c'est génial parce que ne plus conduire, c'est gagner du temps, je sais pas, pour créer, pour écrire un début de chapitre d'un livre, par exemple. Mais vous, en fait, Alain Damasio, vous trouvez que c'est pas forcément une bonne nouvelle, voire pas du tout.
Bah parce qu'on nous a déjà servi l'argument il y a déjà une trentaine d'années en nous disant « Regardez tout ce que vont alléger ces applis, regardez. » Et en réalité, le temps qui est utilisé, il est beaucoup utilisé à jouer, à faire de la consommation culturelle ou à faire des choses qui sont pas forcément brillantes intellectuellement ou qui échappent très peu à l'outillage de la paresse. Donc tu te dis en réalité qu'est-ce qui va se passer si tu prends une voiture autonome plutôt que de conduire. Tu vas jouer à Candy Crush ou au jeu de la pastèque ou alors tu vas continuer à travailler dans ta voiture, c'est-à-dire que ça devait être un bureau surnuméraire. Moi j'aime bien l'idée que...
Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de créer, de prendre ce temps-là pour créer ?
Oui, bien sûr, tu peux prendre ce temps-là pour créer. Mais très souvent, quand on t'explique qu'on va te libérer du temps pour faire autre chose, on voit que ce temps, c'est comme une eau, en fait. L'eau va remplir ce temps. Et on a un vrai problème avec le temps mort, je trouve, aujourd'hui, qui est pour moi le vrai temps vivant, c'est-à-dire le temps d'attente. Pour moi, j'adore quand j'attends un train, quand j'attends un bus, etc. Comme j'ai pas de smartphone, je suis là le nez en l'air à regarder les gens. Je suis dans cette espèce d'interstice où il faut bien que quelque chose se passe. Donc dans cet ennui-là monte, je commence à penser à mes filles, à ma femme. Je commence à penser à mes livres, à mes créations. Mmh. Et c'est les temps les plus créatifs. Et si ce temps il est mangé à ce moment-là parce que j'aurai un smartphone ou que je me reconnecte à quelque chose, que ces voitures vont proposer évidemment des connexions, vont proposer, je pense, des jeux et plein de choses. Et ben cette espèce de temps suspendu, cette espèce de temps mort qui est un temps extrêmement vivant, tu l'investis plus quoi.
Donc, vous dites non à la mort du temps mort, Alain Damasio.
Mort à la mort du temps mort, c'est beau ça. Ça fera un slam.
Il faut que je le fasse. Je voulais chanter. Hein. Vous avez parlé aussi il y a quelques instants de l'outillage de nos paresses, parce qu'apparemment c'est que font les géants de la Silicon Valley depuis plusieurs décennies, c'est outiller nos paresses.
Ça, c'est extraordinaire. C'est que moi, j'ai essayé dans ce recueil, il y avait quelque chose que j'essaie d'interroger, c'est l'économie de désir derrière notre technophilie. Pourquoi on accepte, on endosse, on utilise aussi fortement et aussi intensément toutes ces technologies? Pourquoi nos facultés de résistance ou en tout cas de décalage ou d'alternatif sont aussi faibles? Et j'ai essayé de voir tous les désirs que ça active, toute la machine libidinale qui est mise en jeu. Et une des premières, évidemment, c'est l'outillage de la paresse, ou ce qu'on appelle la loi du moindre effort, qui est, je pense, propre à tous les animaux, à tous les mammifères. C'est-à-dire, si on peut faire quelque chose avec moins d'effort, il y a 19 chances sur 20 qu'on utilise l'appli qui va le permettre. Et ça peut être très chouette, parce que oui, tu peux gagner du temps, oui, ça peut te libérer des choses. Mais ce que ça produit sur nous, c'est que ça produit un appauvrissement des facultés cognitives. Par exemple, je vous prends la mémorisation. Si t'as immédiatement sous la main un moteur de recherche, tu vas plus faire l'effort de retenir tel film, telle discographie, je dis n'importe quoi, la guerre de Troie, comment ça se passe, et Achille, qu'est-ce qu'il fait, ah oui, et Hector, etc. Tu vas plus rien retenir, tu vas immédiatement cliquer sur ton lien Wikipédia, et donc tu vas alléger l'effort mémoriel, ou tu vas alléger l'effort de spatialisation ou d'orientation dans une ville parce que t'as un GPS, et tu te rends compte que ces minutages cognitives, elles sont importantes aussi pour penser, elles sont importantes pour réfléchir. Et c'est exactement comme prendre l'escalator tout le temps ou la voiture tout le temps au lieu de prendre le vélo ou de marcher, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir du mal à monter l'escalier, quoi. Mmh. Et tu commences à dégrader tes capacités physiques. Et de la même façon, ces technologies-là, je trouve, ont dégradé, ont érodé ou effiloché un certain nombre de capacités cognitives fondamentales. Donc, l'outillage
de la paresse, attention, quoi. On est en train de se laisser piquer nos cerveaux.
On est en train de se laisser grignoter cette espèce d'effort minimal qui fait que tu peux effectivement réfléchir. Là, on discute, par exemple, si on n'a pas un minimum de piles de pont mémorielles pour alimenter la discussion, si on ne peut pas s'appuyer sur un certain nombre de concepts, de choses qu'on a retenues, etc.
Vous avez déjà cité quelques noms de philosophes depuis le début de cet entretien.
Oui, pour moi, vraiment sur ce recueil, il y a Deleuze et Baudrillard qui sont vraiment deux guides. Et Baudrillard, je trouve, il est assez oublié en ce moment, alors que c'est un penseur assez extraordinaire. Et son petit livre Amérique que j'avais lu en 92 quand j'avais fait les États-Unis à vélo, j'avais fait 1500 kilomètres sur mon petit vélo et j'avais cette petite bible de Baudrillard. Je l'ai relu en revenant à San Francisco, mais quasiment 30 ans après. Et j'ai été sidéré de l'acuité, quoi. De l'acuité des visions et des intuitions de Baudrillard. Et notamment sur le corps, sur le rapport au corps, sur les joggers, et ça m'a beaucoup guidé, moi, pour le recueil. Oui. À mon petit niveau, j'ai essayé d'appliquer l'espèce d'intuition Baudrillard. Ouais.
Baudrillard qui parlait de nos corps. Vous en parlez aussi pas mal dans ce nouveau texte, de la perte, en fait, du corps. Ça, c'est l'une de vos grandes inquiétudes, Alain Damasio.
Ouais, moi je me suis toujours, je crois que c'est un fil directeur de mon travail, même d'écrivain, c'est-à-dire c'est la dévitalisation, c'est essayer d'interroger la vitalité à l'époque moderne et tout ce qui va l'impacter, l'anesthésie, l'édulcorer ou la fatiguer, et je suis très sensible à toutes les lignes de dévitalisation qui peuvent être à l'œuvre. Et le corps est évidemment le cœur de cette vitalité. Et moi j'étais frappé en voyant donc cette rencontre qui est assez extraordinaire avec Arnaud Auger, qui est un jeune Français de 30 ans qui vit dans les Silicon Valley et qui porte ses lunettes connectées, qui porte tous ses bracelets connectés, etc. et qui monitore donc au quotidien sa santé. Il a même des pilules qui sont adaptées à sa flore intestinale parce qu'il a mangé un capteur pendant un mois.
Il prend soin de son corps, non ?
Voilà, il prend soin de son corps, sauf que évidemment il a la richesse et les moyens pour le faire, alors que la sécurité sociale n'existant pas aux États-Unis, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est la sensation que, comme je parlais du corps premier au début de cet entretien, moi j'appelle ça le décor, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un corps allégé, désinvesti, qui vit sur des sofas moelleux, qui vit toujours entre 25 et 20 degrés, qui est climatisé, un corps qui ne fait plus d'efforts. Et ce corps-là, on se rend compte que il est désinvesti, il est désaffecté en quelque sorte. Et moi, je l'appelle le décor, avec ce jeu de mots, hein, sur CORPS, oui, pour décor. Et t'as l'impression que cette espèce de deuxième corps dans lequel on est aujourd'hui, qui a été très hygiénisé aussi, eh ben, pour essayer de retrouver le corps premier, eh ben, on va utiliser une espèce de raccord, et toujours CORPS, mais de raccord technologique. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si on n'était plus capable de mesurer si on a bien dormi ou pas, de quelle façon on se lève, et qu'on avait besoin de l'Apple Watch, comme on le fait aujourd'hui, qui mesure votre sommeil paradoxal, votre sommeil léger, votre sommeil profond, vos temps d'éveil, et qui vous donne une note de sommeil sur 100 le matin au réveil, en disant, bah, là, je suis à 89%, là, je suis à 53%, j'ai mal dormi, etc. Et t'as envie de dire, mais est-ce que ton corps premier ne sait pas tout ça, bah, c'est pas si évident, on a l'impression. On a une sorte de perte de ce rapport immédiat au corps, et on est très content que la technologie vienne nous expliquer ou nous rassurer, ou en tout cas...
Vous savez, Alain Damasieu, si vous avez bien dormi cette nuit ?
Ouais, je sais, et j'ai mieux dormi que je l'espérais, donc ça va. mais je le sens et je le suis à chaque moment, et je suis obligé d'avoir une attention à mon corps. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que si j'avais la montre qui me disait, ça me perturberait au sens où j'aurais peut-être des dissonances cognitives entre ce que me dit la montre et ce que je ressens. Je me dirais, mais est-ce que j'ai vraiment bien dormi? Là, elle me dit que je suis à 63% de notes de sommeil, alors que je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est intéressant. Et en discutant avec cet Arnaud, qui était quelqu'un de très intelligent et très joyeux et convivial, c'était pas du tout un psychotique. Et il me disait, mais moi, j'ai besoin de me réapproprier mon corps. La technologie m'aide à faire ça. Il courait beaucoup. C'est quelqu'un qui fait des marathons, c'est quelqu'un qui joue au foot, c'est quelqu'un qui est vraiment fit, quoi. Et cette technologie l'aidait à encore mieux vivre. Par exemple, il avait un patch glycémique. Je lui disais, mais pourquoi t'as un patch glycémique? C'est pour les diabétiques. Il me disait, c'est pour savoir quand manger la banane. C'est-à-dire que quand il courait, le patch glycémique lui disait, attention, là, t'as une chute de glycémie. Ça serait le bon moment, si tu veux faire une bonne perf au marathon, de manger la banane. Donc, il y a une espèce d'optimisation aussi de la performance. Et ça, c'est très propre à la Silicon Valley. C'est-à-dire que les corps eux-mêmes sont sur un marché compétitif très fort. Généralement, tu t'auto-gères tout seul, t'es ton auto-entrepreneur, et donc, bah, ton corps fait partie du capital que tu dois gérer. Et ce corps, il faut le gérer de façon performante, donc il maximise aussi ces dimensions-là, quoi.
Il y a le corps, et puis il y a ce que vous appelez l'accord. Et vous nous conseillez de renouer avec l'accord. Qu'est-ce que c'est l'accord ?
Ouais, c'est une dimension qui est très difficile à expliciter, mais qui pour moi est très importante, parce que c'est là que s'exercent ce qu'on appelle les vieilles technologies du corps, comme j'ai envie de dire le yoga, le shiatsu, mais aussi des arts corporels liés à la danse, mais aussi le théâtre lui-même, mais aussi peut-être certains sports, certains arts martiaux. C'est-à-dire que il y a derrière ce corps premier, derrière ce décor, donc ce corps désinvesti, derrière ce raccord technologique qui essaye de nous faire retrouver le corps premier, il y a une sorte de quatrième corps pour moi, qui serait une espèce de corps inconscient, qui est celui qui nous rend amoureux, qui est celui qui des fois nous rend fou, qui est celui qui nous fait faire des actes manqués, mais des actes manqués des fois sublimes ou gracieux. Et on a tendance à l'oublier, voilà, parce que ce corps-là, il n'est pas monitorable, ce corps-là, il n'est pas quantifiable, c'est un corps qualitatif, c'est un corps subtil. Mais il y a énormément dans l'histoire humaine, dans les peuples premiers, mais aussi chez nous, beaucoup de technologies qui ont été inventées, et j'appelle ça des technologies, mais c'est des cultures en fait, des cultures corporelles qui nous permettent de retrouver ce corps et d'être en accord avec lui. Et donc cette espèce de corps caché inconscient, si tu arrives à trouver l'accord avec le corps premier, je trouve que tu vas retrouver un vitalisme, une énergie, une beauté, j'ai envie de dire encore un accord, mais un accord au sens vraiment musical.
Mais ce corps inconscient, c'est notre vie intérieure, en quelque sorte?
Non, je crois que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est notre façon d'être au monde, c'est un rapport au monde, mais qui passe par tous les vecteurs des sens, qui peuvent être olfactifs, auditifs, kinesthésiques. Je pense que c'est tout ça qui se joue. Et c'est la capacité à être justement en résonance avec le monde, avec ce qu'on vit, avec nos proches, avec le corps de nos proches, avec les présences de nos proches. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre, c'est ça la beauté. Donc j'étais intéressé de voir que le raccord technologique essaye de retrouver ça, parce qu'on est des tribus technonomades aujourd'hui. On a notre culture, c'est une culture du clavier, du swipe, de l'appli, des réseaux. Et avec cette culture-là qui est la nôtre, on essaye de bidouiller, quoi, on essaie de bricoler pour quand même retrouver cet accord. Et pourquoi pas, mais si c'est le seul moyen de retrouver son corps, ça devient par contre un peu inquiétant. S'il faut une Apple Watch pour le faire, c'est un peu triste. Ça veut pas dire que j'exclus ça ou que je considère que c'est éliminé, mais il faut pas que ça soit le seul rapport au corps qu'on ait aujourd'hui, quand même.
Vous vous êtes rendu à Tenderloin, le quartier le plus pauvre de San Francisco. Et pourtant, tout proche du siège de Twitter, la drogue consommée là-bas, c'est le fentanyl, je crois. Drogue qui fait pas mal de dégâts, Alain Damasio.
C'est une drogue ultra puissante qui est un dérivé, en fait, d'antidouleur. Je crois qu'un gramme suffit à créer une overdose mortelle. Et les gens sont là-dessous, donc c'est une drogue qui est très peu chère. Et on se retrouve dans un quartier qui est vraiment à 200 mètres, effectivement, du siège de Twitter, mais à 200 mètres aussi des quartiers financiers. Enfin, c'est très, très proche des quartiers financiers. Et moi, j'avais demandé à aller dans ce quartier en premier, parce que je voulais voir aussi l'envers de ce techno-capitaliste triomphant. Et c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a, bien sûr, des SDF en France, on en voit en Europe, etc. Mais là, on voit des gens cassés dans le corps, être complètement cassés. On voit des handicapés, des vieilles handicapées sur des chaises roulantes qui piochent avec leurs pieds beaux pour avancer. Parce qu'en fait, on est dans un monde où les hôpitaux psychiatriques ont été fermés par Reagan dans les années 80 et les fous sont dans la rue. Voilà, donc c'est un asile à ciel ouvert et on voit les gens affronter la totalité de la misère à eux tout seuls, sans aucune aide, soutien. Et c'est vraiment terrifiant.
Ouais. Et ce qui vous a marqué, surtout Alain Damasio, c'est l'indifférence qui règne face à cette situation. Vous êtes beaucoup interrogé à ce propos.
Ouais, parce que je me suis dit, voilà, tu peux faire une espèce de chronique misérabiliste, j'essaie de décrire ce que je vois et à quel point ça me retourne, mais je voulais pas terminer la chronique là-dessus parce que ce qui est le plus important, c'est de se dire comment ça peut côtoyer, alors que tu traverses l'avenue et étant des quartiers riches, comment on peut passer au bord de ça, sans finalement rien faire, sans parfois même s'émouvoir, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai le même problème avec les migrants aujourd'hui, c'est-à-dire que je trouve que la façon dont on aborde les migrations avec une espèce de terreur panique, de sentiment de menace et de danger, alors que le flux migratoire est resté assez constant depuis 10-15 ans, témoigne de quelque chose qui est lié à notre mode de vie. Voilà. Et mon intuition, alors c'est qu'une intuition, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que le technococon dans lequel on a tendance à se refermer, c'est-à-dire que le fait qu'on vit le monde à travers des interfaces, à travers des écrans, à travers des réseaux sociaux qui nous laissent dans nos communautés affines et qui nous filtrent le monde, fait que le rapport à l'altérité, le rapport à l'autre, à ce qui n'est pas nous, à ce qui n'est pas notre quotidien, à ce qui n'est pas notre culture, devient de plus en plus difficile, ou en tout cas de moins en moins affronté.
Et on en revient à la question des liens.
Voilà. Et du coup, le lien que tu peux faire avec quelque chose qui te dérange, qui te trouble, qui n'est pas toi, tu le fais plus, en fait, parce que t'as plus l'habitude de faire, tu t'es construit dans ta bulle technologique. Et du coup, quand tu vois ces gens-là, t'as l'impression que, et je le dis à un moment, j'ai plus de vitres là, j'ai plus d'interface, j'ai plus d'écran, c'est pas un reportage qu'on est en train de me montrer, c'est juste le réel, ils sont à 2 mètres de moi, quoi. Et je vois encore le gamin qui était, qui devait avoir même pas 15 ans, avec la peau très très blanche comme un Irlandais, qui était cassé en deux à l'équerre au sol sur le bitume, et tu te dis, mais je fais rien par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Il y a 78 milliardaires dans la Silicon Valley, il suffirait qu'ils donnent un 1/10 de leur richesse et ils arriveraient sans doute à construire au moins des hôpitaux pour soigner ces gens-là, au moins pour arrêter de les mettre face à l'hyperviolence de la rue, quoi. Et ben, il se passe rien de tout ça, quoi. On utilise des associations là-bas qui font ça et qui font des fois un peu n'importe quoi. Et c'est tout, parce que c'est sous-traité en plus, c'est-à-dire que la commune sous-traite à des associations la gestion des homeless. Et ça a renforcé cette idée que on avait conjuré tout lien avec l'altérité, ou en tout cas on devient de moins en moins capable de se coltiner ou de se confronter à ce qui n'est pas nous, quoi. Et on n'a plus le goût de le faire, on n'a plus le désir de le faire. Et tout ce qui n'est pas nous devient une menace parce qu'on a refermé les frontières du technococon autour de nous. Donc c'est un effet collatéral, je pense, de nos modes de vie et du confort que ces technologies apportent, quoi.
Alain Damasio, vous êtes notre invité cette semaine.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Et qu'est-ce que c'est sympa de vous savoir là, dans quel monde on vit avec cette semaine. Et l'écrivain Alain Damasio, Vallée du Silicium, c'est votre nouvel essai, Alain Damasio. Nous évoquerons notamment la question des frontières et de la liberté humaine avec vous dans les prochaines minutes. Mais d'abord, c'est en toutes lettres et c'est avec vous, Pascal Clark. Nous vous écoutons, Pascal.
Cher ami, Ah, c'est très curieux de commencer ma lettre ainsi. Primo, comment me qualifier ? J'ai dit ami. Peut-être est-ce miroir, proche, intime, compagnon, partenaire. Sans vouloir t'offenser, le moindre mot de travers est plus que risqué dans l'affaire. Je connais ta susceptibilité, la possibilité permanente que tu te braques jusqu'à refuser de t'allumer. Il ne manquerait plus que tu ne me parles plus. Confident. Confident, c'est bien. Cher confident, tu sais tout de moi. Partout où je vais, tu vas. T'es un peu collant comme gars. Mais tout est de ma faute. À chaque fois, la même rengaine. Je craque et je t'emmène. Avec moi tout le temps, dans mon sac ou dans ma poche. Plutôt la poche. Je crois bien que j'ai besoin de te sentir, savoir si tu vibres et découvrir quelle est cette sollicitation qui fait que tu trépignes. Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît. Il a fallu s'apprivoiser et tu n'as pas protesté quand je t'ai configuré pour que tu colles à ma vie. Chaque jour, je te nourris aussi, toi et moi, nous fonctionnons ainsi. Une sorte de fidélité tacitement renouvelée. Je te donne tout, mes photos, mes pensées, mes trajectoires, mes rendez-vous. Tu prends et tu te tais. J'ai confiance en toi. Nous cheminons pas après pas. C'est du tactile entre nous, la pulpe des pouces pour les messages, les plus beaux filtres sélectionnés d'un doigt pour les paysages après cadrage, l'intimité de mes tympans quand tu me délivres une autre voix. Mes 95 applications qu'il suffit de tapoter pour utilisation. Notre relation n'est pas banale, notre intimité toute digitale. Cher téléphone portable, je ne pourrais plus me passer de toi. Dois-je remercier ou bien maudire les GAFAM ? Je suis de celles qui croquent la pomme, mais si tu es honnête, mon cher smartphone, tu admettras que je ne te laisse pas tomber comme ça entre nous, c'est jusqu'au trognon. Je regarde passer les nouveaux modèles avec circonspection, je te garderai jusqu'à ton dernier bip. Je me demande bien quelle sera ta dernière fonction. Tu es mon lien avec le monde, tu es ma musique, tu es ma montre, tu es ma météo, tu es ma mémoire. Tu es mon ombre de pas, tu es ma boussole, tu es ma torche, tu es ma presse, tu es mes transports, oui. Définitivement, tu fais partie de tous mes plans. Tu es mes réseaux sociaux, tu es mes radios également. Même la nuit, je t'embarque avec moi. C'est pas de l'amour, ça ? Je me demande bien comment je faisais avant toi. J'avais un fil à la patte, puis un répondeur. Je pouvais disparaître sans donner de nouvelles et sans drame. Demander à quelqu'un quand je perdais mon chemin. Triturer mon cerveau à la recherche d'infos sans passer par Google. Je respirais papier, à feuilleter ou à déplier. Je dis pas que c'était mieux. L'argentique ne faisait pas forcément le bonheur. C'était autrement. Un temps où les désirs n'étaient pas comblés à l'instant, c'était un temps d'attente, avec sa frustration et ses frémissements. Mon cher téléphone portable, je sais bien qu'en vivant avec toi, je m'expose aux grandes oreilles alentour. Quelqu'un, quelque part, dans la Silicon Valley ou ailleurs, peut aspirer toutes tes données. Je sais aussi que notre relation multipliée à l'infini contribue à fabriquer des millionnaires et même des milliardaires surpuissants. Mais je crois qu'il est trop tard. Mon cher smartphone, nous vieillirons ensemble. Pascal Clark.
Merci à vous, Pascal. Réaction, Alain Damasio.
Ce qui est marrant en écoutant, c'est que je me disais, c'est ce qui va se passer en plus intense encore avec l'IA personnalisée. C'est-à-dire que le smartphone fonctionne déjà comme premier interlocuteur, ou en tout cas premier objet technologique intime avec lequel on interagit incroyablement souvent et incroyablement profondément. Et tu te dis, cette étape-là, elle va encore aller plus loin avec l'IA personnalisée, où ça va être vraiment une interlocution en langage naturel, avec reconnaissance vocale, où ça sera la première personne avec laquelle vraiment tu auras lien, quoi, tu tisseras lien. Et on y est déjà, en fait. On y est déjà, simplement, la technologie va muter, ça va être encore plus, plus évident, plus immédiat.
Est-ce que vous pouvez rapidement enseigner à Pascal le mantra furtif ?
Ah, fuir un réseau trop intrusif, fuir, c'est ça, ouais, c'est le...
Vous notez, Pascal ?
Ah ben, je note avec grand intérêt, oui.
Fuir un réseau trop intrusif.
Ça fait l'acronyme des des furtifs.
Ouais.
Mais ce qui est fou, c'est que c'est marrant. Moi, j'appelle l'IA des fois l'intelligence amie parce que c'est comme ça qu'elle arrive aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande bienveillance dans la façon dont le lien.
Et c'est comme ça que vous
construit.
La souhaitez.
Oui, c'est comme ça que je la souhaite. Mais ça va aussi refermer un piège assez extraordinaire, je pense, psychologiquement, même psychanalytiquement. C'est-à-dire que ça sera la personne qui nous connaîtra le mieux. Voilà. Et du coup, moi, ça me pose la question du rapport à l'altérité, justement. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pas t'agacer d'avoir quelqu'un qui n'est pas totalement ajusté à toi, comme le sera l'IA personnalisée, quoi. Donc, ça interroge énormément la façon dont on va interagir avec les autres, quoi. C'est-à-dire que tous nos failles narcissiques vont être remplies et comblées par ces IA-là, quoi. Donc, est-ce qu'on sera capable de sortir de ça? Je sais pas.
Je signale, Pascal, que votre lettre, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Et écoutons à présent une voix qui vous procure des frissons, Alain Damasio.
On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai. Enfin, j'ai dit des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle.
La voix du philosophe Gilles Deleuze lors de sa conférence sur l'acte de création à la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son à Paris. Cette conférence, c'était en mars 1987. Quelle est l'actualité de cette intervention qui a près de 40 ans, Alain Damasio ?
Elle est totale, elle est même carrément visionnaire, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que pour moi c'est aussi émouvant. Il y a la voix de Deleuze qui est incroyable en termes de... Là on l'entendait extrêmement bien en plus, là je l'entends dans le casque, donc c'est encore plus émouvant. Mais il y a un grain de la voix, un rythme, des suspensions qui sont celles de la pensée. C'est-à-dire qu'on voit la pensée en mouvement, on voit la pensée s'écouler, on voit la pensée vivre et vibrer. Et c'est rare d'avoir des philosophes qui traduisent aussi bien par leur voix ce mouvement-là. C'est comme les très grands chanteurs qui peuvent restituer des émotions extrêmement précises. Et après, ce qui est dit reste absolument clé, quoi. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un régime de contrôle. Et c'est effectivement, en gros, dans les années 90 que ça se produit. On sort du régime disciplinaire, des lieux clos comme l'école, l'usine, etc., qu'avait décrit Foucault, et dans lequel on donnait des mots d'ordre, effectivement, au corps, dans un espace et un temps donné. On rentre dans ce régime du contrôle qui rencontre très, très vite, et ça, Deleuze ne pouvait pas le deviner, mais qui rencontre très, très vite le numérique, c'est-à-dire... une capacité d'extension de la surveillance, du contrôle, de la traçabilité de tous les actes, de tous les messages, de toutes les photos qu'on n'avait pas deviné. Donc on atteint quelque chose, un degré de fluidité, de finesse dans le contrôle. Et le contrôle n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça peut être le contrôle sur ta vie, sur ton environnement, sur ton rapport aux autres. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça nous donne énormément de contrôle dans la façon dont on interagit avec les autres, dont on filtre les sollicitations, parfois les agressions, les harcèlements, dont on construit la régie, j'ai envie de dire, de nos rapports au monde. Donc c'est de l'intra-contrôle, c'est de l'inter-contrôle, c'est du self-contrôle, c'est des fois des contrôles verticaux opérés par la NSA ou l'armée, etc. Mais on est dans ce régime, effectivement, où tout laisse une trace, où tout peut être récupéré, archivé, stocké. Et il le sent, quoi. Il l'intuit avant même que ça émerge dans les réseaux, quoi. Donc c'est très, très émouvant d'avoir ça. Mmh.
Vous êtes arrivé, Alain Damasio, à San Francisco le 6 avril 2022. Votre femme et vos deux filles le 12 avril. Et ça a été pour elles la galère, avec des contrôles, justement, contrôles multiples et variés. Vous écrivez, et ça m'a étonné, que le but de tout ça, c'est de nous dissuader gentiment de bouger, de changer de pays.
Ouais, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors on était en période post-Covid, donc il y a eu cette espèce d'acmé du confinement et du fait que justement tout corps étant potentiellement contagieux, on le conjurait de ne pas bouger. Et ça, le monde numérique, la Silicon Valley, pour eux c'était un or absolu, puisque moins tu ne bouges, plus tu es obligé de bouger à travers le réseau, donc plus tu es obligé de communiquer, d'échanger, etc. Donc plus tu génères de la trace, plus ces traces évidemment vont être orpaillées, data minées et utilisées pour générer de la plus-value. Donc eux, ils ont vraiment intérêt à ce que les corps restent fixes chez eux, ne bougent pas.
D'accord, mais tous ces contrôles, c'est pas pour des raisons de sécurité ?
Ouais, mais effectivement, quand tu vois que le passeport est une invention du début du XXe siècle, avant il n'y avait même pas de passeport, tu pouvais passer d'un pays à l'autre sans souci, tu te dis c'est quand même incroyable. Non, moi ce qui m'a frappé, c'est de dire, t'as la sensation réellement physique que effectivement on veut pas que tu passes d'un pays libre, soi-disant libre, en tout cas à un autre pays libre, puisqu'on passait de la France aux États-Unis, on n'était pas en train d'essayer d'aller dans une zone de guerre, etc. Donc tu arrives aux États-Unis, tu te dis le pays de la liberté, en tout cas ça a été vendu, marketé, storytellé, j'ai envie de dire mondialement comme ça. Et là, on te demande les empreintes digitales de tes quatre doigts des deux côtés, des deux mains, plus le pouce ensuite. Et ensuite, la biométrie, on te dit attention, souriez pas, on va vous prendre le visage, on vous paramètre le visage. Et tu te dis, pourquoi tout ça
Et vous en venez à dire que nous sommes devenus les secrétaires perpétuels de notre identité.
Ça, c'est, je trouve, parmi les promesses que portait le numérique, c'est la plus profondément trahie. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, vous allez voir, vous n'allez plus remplir de formulaires, vous n'allez plus devoir certifier votre identité, etc. Et en fait, je passe 30, 40, 50 fois par an mon temps à remplir mon nom, mon prénom, mon âge, mon lieu de naissance, mon mail, mes avatars, etc., etc. Et je pense que tout le monde le fait. C'est-à-dire que la bureaucratie n'a jamais été finalement aussi fréquente. Et tu te dis, le jour où ils nous proposent un mode de certification de l'identité qui nous évitera de faire ça, on va tout de suite l'adopter. Or, ce mode-là, ça sera une espèce de... là, il n'y aura plus de liberté du tout. On saura exactement où vous êtes tout le temps et quelle est votre identité. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal d'être dans un monde bureaucratisé par le numérique alors qu'il devait nous alléger de tout ça. Mais moi, je reviens à la frontière, je reviens au passage de frontière et au mouvement des corps. Tu as vraiment le sentiment que, effectivement... Ce monde ne souhaite pas particulièrement que ton corps bouge. Par contre, il souhaite absolument que tu bouges sur les réseaux, que tu communiques, que tu échanges, que tu envoies des messages, que tu publies des vidéos, des photos, etc. Mais il veut pas que les corps bougent parce que le corps, potentiellement, il est menaçant, potentiellement, il est dangereux, potentiellement, il est contagieux. Et ça donne une idée du statut du corps dans ce monde-là. La Silicon Valley, ils appellent ça « meat », la viande, le « body is meat ». Ils disent, c'est-à-dire, le corps, c'est de la viande, c'est plus irrigué. Ce qui les intéresse, c'est que l'information circule, que la boule de neurones fonctionne, qu'on reste dans une dimension un peu spirituelle, un peu immatérielle. Et le corps est un handicap là-dessus. Après, moi, on pourrait vraiment... parler de l'aspect politique de tout ça, c'est-à-dire que je trouve qu'on n'est même plus dans des politiques sécuritaires, on est dans des politiques immunitaires. Et c'est ce que le Covid a montré, c'est-à-dire que l'autre devient susceptible de prophylaxie. C'est-à-dire qu'on a peur de l'autre comme véhicule d'une espèce de maladie, quoi. Et ça, c'est très très grave. Moi, dans la façon dont on peut analyser, par exemple, la réaction d'Israël à l'attaque du Hamas du 7 octobre, il y a une réaction qui est de l'ordre, même pas du sécuritaire ou du militaire, qui est de l'ordre de l'immunitaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout à coup, Israël s'est dit « des cafards peuvent rentrer chez nous ». On avait cru absolument dératiser tout. Et là, tout d'un coup, ils nous montrent qu'ils peuvent rentrer. Et donc, la réaction, elle est complètement panique, extrême, disproportionnée. On fait des facteurs 30 dans le nombre de morts qu'on va générer par rapport à l'attaque initiale. Parce qu'on a une réaction qui est complètement immunitaire, qui est même plus sécuritaire, c'est même plus rationnel militairement ce qu'ils font. Et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est ce que ce monde numérique aussi, d'une certaine façon, amène à faire, tellement on est coupé de l'autre. Quoi. Voilà. Mais c'est ma lecture un peu du conflit. Ouais.
Dans quel monde on vit ?
Parlons maintenant du rôle de l'écrivain, et en particulier du rôle de l'écrivain de science-fiction. Que pouvez-vous faire, Alain Damasio ? Dans ce contexte,
On peut faire beaucoup. Moi, je suis très heureux. Je considère que c'est un âge d'or pour la science-fiction, ce qui se passe. Qu'on est une société qui a l'acmé de technologiquement de ce qu'on a pu connaître dans l'histoire humaine, et comme la science-fiction est là pour interroger ce que la technologie fait à l'homme, je considère qu'on est un peu au cœur du game, quoi. On est au milieu de ce qui se passe. Et quand tu vas à la Silicon Valley, c'était assez marrant parce que Moi, j'avais l'impression d'être sur mon territoire, sur mon terrain, puisque c'est des gens qui travaillent sur le futur. Le premier produit qu'ils vendent et qu'ils marketent, c'est le futur. Donc, on travaille sur la même matière première. Moi aussi, je travaille sur le futur. Moi aussi, je travaille sur l'anticipation. Moi aussi, j'essaye de deviner, d'intuiter un peu à partir des signaux faibles ce qui va pouvoir se produire. Et on est sur les mêmes imaginaires, parce que le futur, par définition, il n'est pas encore advenu, donc ça reste de l'imaginaire. Et par rapport à cet imaginaire, bah, la question, c'est de se dire... Qu'est-ce qu'on essaye de rendre enviable? Quel imaginaire désirable on essaye de construire? Quel est l'imaginaire qu'eux construisent et qu'est-ce qu'on peut faire nous?
Donc le terrain de combat, c'est le terrain du désir?
Ouais, pour moi, ça reste le terrain du désir. Et surtout dans la création littéraire, dans la création cinématographique, dans la création de jeux vidéo. Parce que cet imaginaire, il passe aussi beaucoup par le jeu vidéo, par les mangas, par les BD, par les séries télé, les longs métrages, et bien sûr la littérature. La littérature avec cette force de construire une mémoire longue et profonde que n'ont pas forcément les œuvres audiovisuelles. Et du coup, dans ce cadre-là, on est obligé de se confronter à ce terrain de l'imaginaire.
On fait plier les géants de la Silicon Valley?
Moi, je crois qu'en tout cas, on infléchit des vies, on oriente des vies vers des horizons qui sont plus ouverts. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans Les Furtifs, par exemple. Je pense dans mon prochain roman aussi. C'est-à-dire, j'ai construit des imaginaires qui me paraissent effectivement orienter les gens, notamment vers un renouement avec les forces du vivant. Moi, je pense qu'on a vécu dans le cyberpunk pendant 50 ans, c'est-à-dire depuis les années 70. Et tous ces gens qui, les Steve Jobs, Elon Musk, les Jeff Bezos, etc., les Zuckerberg, ont été nourris beaucoup à la science-fiction. Ils le reconnaissent. Hein. Ils reconnaissent même que leur désir ou la construction du monde qu'ils sont en train de faire vient parfois d'œuvres de science-fiction. Mais la promesse, c'était celle du cyberpunk pour moi. C'est-à-dire, c'est celle que la technologie allait nous émanciper, le couplage de l'homme avec la technologie.
C'est une fiction qui fonctionne encore pas mal, vous le savez.
Mais complètement. Mais moi c'est comme la mort de Dieu chez Nietzsche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'annonce que le cyberpunk est mort. Il est encore extrêmement opérant dans les imaginaires. Mais comme dit Nietzsche, la nouvelle de la mort de Dieu, elle va mettre beaucoup de temps à atteindre les oreilles des gens. Et il disait peut-être 100 ans, peut-être plusieurs siècles. Moi, j'aime bien cette idée. C'est-à-dire qu'une nouvelle peut être annoncée, mais avant qu'elle soit comprise et reçue, il peut se passer beaucoup de temps. Moi, je pense que cette promesse de l'émancipation par la technologie, elle a fait son temps. Elle a montré ses limites. On a créé des machines auto-addictives ou auto-aliénantes qui sont extraordinaires à travers le smartphone, même si ça libère et émancipe aussi beaucoup de choses. Et ça nous permet de faire beaucoup de choses. Mais malgré tout, pour moi, la dominante auto-aliénante, elle est supérieure. Et du coup, la vraie façon, peut-être, de relibérer l'humain, c'est de retrouver ses liens avec les forces animales, végétales, avec ce qu'on appelait avant la nature, qu'on appelle aujourd'hui le vivant. Et donc, moi, j'appelle ça le biopunk. Voilà, le biopunk, ça serait en quelque sorte la nouvelle étape après le cyberpunk. Donc, je suis plus là-dessus. En tout cas, je travaille sur ces imaginaires-là, sur ces mythologies-là. J'appelle ça la mythopoïèse. C'est quand tu essaies de fabriquer des mythes. Eux-mêmes fabriquent leurs mythes. Hein. C'est la superintelligence, c'est-à-dire c'est l'IA qui va piloter la totalité du monde humain et qui saura résoudre tous les problèmes parce que ce sera suffisamment intelligent. Ça, c'est un mythe créé par les mythocrates de la Silicon Valley. Moi, je me décale de ces mythes-là, ouais.
Tenez, il y a une philosophe qui a relu votre nouveau livre en avant-première et qui a un message à vous adresser.
Bonjour Alain Damasio, Sébastien Després ici. D'abord, félicitations pour ce livre. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est... Je sais que tu as un rapport très matériel, très corporel avec l'écriture. Tu sculptes l'air avec ta bouche, disais-tu parfois. Est-ce que le fait d'écrire des essais modifie ce rapport ? Voilà, je t'embrasse. À bientôt.
Alors, votre réponse à Vinciane Després, Alain Damasio, que vous avez reconnu.
Merci pour la question. J'adore Vinciane, j'adore son travail. Donc, c'est toujours émouvant pour moi de l'entendre. La question est très belle parce qu'effectivement, pour la première fois, j'aborde le champ de l'essai. J'assume. Et effectivement, ça modifie l'écriture. Parce que quand tu écris pour l'essai, en réalité, la syntaxe est au service du mouvement de l'idée. C'est-à-dire, elle est au service du mouvement du concept. Et c'est pas du tout la même chose que d'être au service du mouvement de la sensation ou du mouvement de l'affect, qui est la dominante quand t'écris de la fiction. Donc, la syntaxe va être modifiée, impactée par ça. Après, sur tout ce que j'appelle, moi, le chant vraiment phonétique, le chant sonore, la musicalité de la langue, tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, le système d'assonance, d'allitération, tout le chromatisme de la langue où tu sens les consonnes se répondre, les voyelles sombres répondent au clair, etc. Je pense que ça modifie pas mon écriture et au contraire, je la mets au service d'une certaine sensualité de l'idée. Mmh. Voilà, j'essaie de véhiculer des concepts et des idées, mais sans sacrifier l'affect, sans sacrifier tout le champ de perception que ça amène. J'essaie de montrer la Silicon Valley et ces idées-là en montrant qu'il y a du désir dedans, que ce désir informe et construit aussi ce qu'ils font. Et que si tu oublies ce champ de désir, tu comprends pas réellement ce qu'il y a derrière le transhumanisme, tu comprends pas réellement ce qu'il y a derrière le métavers, derrière le fait que le corps est désinvesti ou repoussé. Donc, j'ai l'impression que mon écriture aide à mieux sentir ces concepts-là et ces idées-là. Donc, je dirais que je sacrifie pas l'écriture, en fait. Ouais, non, je crois pas.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Et nous sommes avec Alain Damasio pour quelques poignées de secondes encore, et c'est le temps du partage des choix culturels, et d'abord celui de Pascal Clark. Que nous conseillez-vous, Pascal ?
Une recommandation très simple. Vous pourriez par exemple réécouter ce chanteur, auteur, compositeur qui a disparu il y a 4 ans cette semaine. Il s'appelait Daniel Bévilacqua. Mais évidemment, on le connaissait mieux sous le nom de
Christophe.
Même sous le prénom de Christophe. Personnage unique, mort du Covid. Alors écoutez ce que vous voulez de Christophe, pour moi ce sera la Dolce Vita.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita.
Et vous, Alain Damasio ?
Je conseille le prochain livre de Baptiste Morisot qui sortira en septembre, sur lequel je sur le manuscrit, c'est un livre sur l'eau, les rivières et les castors. Ça va être fantastique. C'est un livre d'une grande puissance et d'un grand intérêt. Il n'a pas encore de titre, donc malheureusement, mais attendez-le et guettez-le. Ça va être fabuleux. Je conseille bien sûr Vinciane Després. Je conseille Habiter en oiseau, qui est un livre magnifique, d'une très grande précision, d'une très grande finesse, qui m'a, moi, permis de comprendre ce que ça signifie faire territoire, comment les oiseaux font territoire, et de comprendre la créativité justement du rossignol et des oiseaux. Donc allez, on va dire Habiter en oiseau de Vinciane Després. Ouais.
Et de mon côté, je voulais vous prouver qu'en Californie, il n'y a pas que la Silicon Valley. Écoutez. Cet extrait du nouvel album de Grandaddy, du rock à l'apparence tranquille, venu tout droit de Californie. Ça fait 2 mois que Blue Wave est sorti dans cet album, histoire de ne pas trop nous éloigner de notre conversation. Il y est question de nos relations avec des intelligences artificielles, mais ce que j'en retiens surtout, ce sont ces mélodies qui tutoient nos âmes humaines. Écoutez, vous verrez que c'est très réel et que ça n'est pas du tout artificiel. Blue Wave de Grandaddy, et à lire aussi bien sûr Vallée du Silicium d'Alain Damasio, c'est aux éditions du Seuil dans la collection Albertine. Merci Alain Damasio.
Merci.
Et merci à vous Pascal Clark.
Merci Pascal Claude, à la prochaine.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.